Voici une question dont la réponse encouragera tous les croyants. Comment pouvons-nous donner la première place à Dieu dans notre vie? La parole de Dieu va nous donner une réponse utile et enrichissante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois sincèrement que Dieu va parler à nos cœurs au cours de cette émission. En répondant aux questions que voici. Est-ce que le péché peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs? Qu'est-ce qui démontre que David était un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de suicides de nos jours, surtout parmi les jeunes? Que devrait être le but ultime de notre vie? Comment pouvons-nous faire une contribution positive dans l'Église de Jésus-Christ? Comment pouvons-nous donner la première place à Dieu dans notre vie? Que devons-nous faire quand nous servons dans un ministère qui n'a plus lieu d'être? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, merci pour la prière. Merci de nous donner accès à toi grâce à Jésus. Ô mon Père, enseigne-nous aujourd'hui. Enseigne-nous ce que tu désires nous enseigner. Fais-toi connaître à nous, mon Dieu. Enrichis nos vies par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Depuis que nous avons débuté l'étude des livres des Chroniques, nous avons souligné qu'ils racontent l'histoire d'Israël, mais d'un point de vue divin. Donc, les événements rapportés dans ces livres sont ceux qui revêtent de l'importance aux yeux de Dieu. Par exemple, le premier livre des Chroniques ne s'arrête pas sur le péché de David avec Bathsheba, qui fut un péché personnel de David, dû à la convoitise de la chair. Celui-ci s'en repentit, le confessa, et Dieu n'y pensa plus après avoir châtié David. Par contre, le dénombrement d'Israël fut un péché d'origine satanique. David cessait de mettre sa confiance en Dieu pour s'appuyer sur son armée, sur ses richesses. C'est Satan qui avait excité David à faire le dénombrement d'Israël. Cet incident est rapporté puisqu'il a une très grande importance aux yeux de Dieu. Ensuite, le premier livre des Chroniques consacre de nombreuses pages aux préparatifs de la construction du temple. Une nation est formée d'individus, mais lorsque ses citoyens ne craignent plus Dieu, mettent de côté la loi et les valeurs morales de Dieu, rien ne peut plus aller. Tout programme, gouvernemental, si utile soit-il, est entaché de corruption. Pour Dieu, la construction du temple était importante. C'est là qu'il manifesterait sa présence à son peuple. À la dernière émission, nous avons vu David acheter l'air d'Oran afin d'y offrir un sacrifice pour mettre fin à la peste avec laquelle l'ange de l'Éternel frappait le pays. C'est sur cette terre que sera construit le temple. Aujourd'hui, nous reprenons au verset 10 du 22e chapitre du premier livre des Chroniques. Dieu promet à David que Salomon construira le temple et qu'il affermira son trône pour toujours en Israël. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Chroniques chapitre 22, verset 10. « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » La venue du Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement final de cette promesse. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pensait que David n'était pas tellement intéressé à voir Salomon lui succéder sur le trône, car il voyait en Salomon un homme peu viril. Ayant été élevé dans le palais, il n'a pas eu à se défendre et à combattre sur des terrains rugueux comme l'a fait David son père. David et Salomon ne se ressemblaient pas, ayant été élevés et formés dans des environnements différents. En fait, David dit à Salomon, « Tu vas construire le temple. Je veux t'encourager à le faire avec enthousiasme. C'est le désir de mon cœur de construire un temple magnifique, mais Dieu ne me le permet pas, parce que je suis un homme de sang. » Le péché peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Oui, chers amis, permettez que je vous rappelle que David ne s'en est pas tiré avec ses péchés. Il n'a pas pu accomplir ce que son cœur désirait le plus sur terre, ce qui était la construction du temple de Dieu. Dieu n'a pas permis à de nombreux hommes d'atteindre leur but qu'ils s'étaient fixé à cause du péché dans leur vie. Le péché entrave notre progrès, et ce fut le cas même avec David. Verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. David encourageait son fils, car il savait qu'il en avait besoin. Il a été élevé au palais, et il n'est pas la personne la plus agressive. Comme nous le verrons, Salomon a récolté les bénéfices du règne de David. Nous pouvons véritablement dire de lui ce que Jésus a dit aux apôtres. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Jean chapitre 4, verset 38. Salomon est entré dans le travail de son père, du roi David. Verset 12. Veille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. David encourage son fils à marcher dans les voies de Dieu. Je pense que David percevait certaines faiblesses chez Salomon, et je suis certain que Bathsheba en a observé plusieurs. Une des faiblesses de Salomon était les femmes. Présentement, nous lisons les conseils que David a donnés à son fils, mais si vous voulez lire ceux que lui a donné Bathsheba, lisez le dernier chapitre du livre des Proverbes. Verset 13. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. David savait que Salomon aurait pu se décourager. Il connaissait la faiblesse de son fils. Il lui dit d'être un homme, d'être fort et courageux. Oh, que nous puissions tous nous encourager mutuellement. Verset 14. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 000 000 de talents d'argent et une quantité d'airain de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. » David explique à Salomon qu'il n'aura pas à lésiner sur la construction du temple. Il n'aura pas à réviser les projets à la baisse. Il aura tout le matériel nécessaire pour accomplir la tâche. David explique à Salomon qu'il avait accumulé des matériaux pendant qu'il livrait des guerres et qu'il affermissait le royaume. Pourquoi David était-il un homme selon le cœur de Dieu? Dieu a noté ce qu'il y avait dans le cœur de David. C'est pourquoi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce genre d'attitude que Dieu désire que nous ayons. Une attitude qui met l'accent sur les valeurs spirituelles avant toute chose. Mes amis, quel est le but de votre vie? Quelles sont vos ambitions? De nombreux jeunes n'ont pas de but pour leur vie. Ils ont été élevés dans l'abondance. Ils n'ont manqué de rien dans leur foyer. Mais personne ne leur a indiqué un but satisfaisant pour leur vie, un but grand et glorieux. Ils n'ont pas obtenu cela dans leur foyer, ni à l'école. En fait, dans nos écoles, l'enseignement moral et religieux est strictement informatif. Les programmes scolaires n'indiquent plus une direction morale et il n'y a plus de discipline dans les écoles. Si l'on retirait l'enseignement moral et religieux des écoles, cela ne changerait pas grand-chose. Laissez-moi vous poser quelques questions. À quoi sert la vie? Pourquoi y a-t-il tant de suicides, en particulier parmi nos jeunes? Un jour, deux adolescentes sont venues à une réunion de prière que je dirigeais. Elles ont affirmé qu'elles ne s'aimaient pas. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Mon cœur est triste pour ces jeunes filles, car quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités. Les parents, l'école ou l'Église ont échoué. Ces adolescentes ne sont pas les seules dans cet état. Notez que David a indiqué une voie à son fils et il lui a donné un but. Tu as un but valable. Construis une maison à Dieu. Dans quel but Dieu nous a-t-il créés? Il nous a créés afin que nous le glorifions. Dieu nous demande de l'aimer. Il désire être en communion avec nous. C'est pour enlever la barrière du péché qui nous sépare de lui qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix pour nous. Mes amis, j'aimerais vous rendre enthousiastes. Pas au sujet du hockey ou du baseball, pas au sujet des choses qui vous entourent, même pas au sujet des activités de votre Église. Mais j'aimerais vous rendre enthousiaste pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais tellement que vous vous intéressiez à lui, à sa personne. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ m'a promis, ainsi qu'à tous ceux d'entre vous qui sont croyants, que nous serions avec lui éternellement. Puisqu'il est Dieu, c'est cela qui se produira. Dieu a quelque chose de glorieux en vue pour nous. Nous ne le possédons pas encore, et nous ne savons pas ce que ce sera exactement. Mais je m'intéresse à ce qu'il nous promet. Nous devrions tous dire comme Paul, « Je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 14. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il y avait quelque chose de noble et d'élevé dans son cœur. Verset 15. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Dieu avait pris des ententes avec Hiram, le roi de Tyr et de Sidon. Verset 16. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Vas-y, jeune homme, au travail, voici un but grandiose. Quel est ton but? Versets 17 à 19. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. David ordonne au chef d'Israël d'appuyer Salomon afin que le projet soit accompli. Et vous, que faites-vous pour le Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, j'aimerais m'adresser aux chrétiens qui m'écoutent présentement. Il se pourrait que votre marche chrétienne soit au ralenti. Il se pourrait que votre seule activité à l'Église soit de médire et de calomnier les croyants actifs et les pasteurs. Peut-être n'êtes-vous pas coupable de ces choses, mais vous ne faites que réchauffer les bancs de l'Église. Vous ne participez à aucune activité. J'aimerais vous avertir et vous réveiller aujourd'hui. Réveillez-vous et approchez-vous du Seigneur Jésus. Dites-lui que vous voulez marcher au même pas que lui et que désormais vous désirez mettre l'accent sur les choses spirituelles. Faites quelque chose de précis. Faites une contribution positive. Ne demeurez pas assis. Levez-vous, maintenant, chers amis. C'est ce que David dit à Salomon. Il réveille son fils. Il brasse son fils. Nous passons maintenant au chapitre 23 qui fait partie de la section des préparatifs pour la construction du temple. C'est un projet important aux yeux de Dieu, donc l'accent est mis sur celui-ci. David aussi considère ce projet super important et nous voyons son enthousiasme par tous les arrangements qu'il a faits pour le sanctuaire et l'adoration. Donnez-vous vraiment la première place à Dieu dans votre vie, mes amis? Si vous êtes un enfant de Dieu, David vous lance un défi. Donnez-vous vraiment la première place à Dieu dans votre vie. Éprouvez-vous de la joie alors que vous êtes en communion intime avec Dieu. Pensez à Jésus. Vous rend-il heureux? Voulez-vous faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que Dieu donne une direction et un but à votre vie? Est-il le sujet de motivation? Est-ce que le grand désir de votre cœur est de le connaître et de le servir? Malheureusement, de nombreuses églises ressemblent à des manèges ou à la grande roue. Nous embarquons sur le manège, nous faisons quelques tours et nous redescendons au même endroit. Nous ne sommes allés nulle part. Les églises ont des activités, mais pas d'actions qui aboutissent à quelque chose. David s'occupait des choses de Dieu et il encourage son fils à faire de même. Que fait Dieu maintenant? Que fait Dieu aujourd'hui? Il bâtit son église. Et toi, que fais-tu? Lisons 1 Chronique, chapitre 23, verset 1er. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. David établit Salomon sur son trône. C'est lui qui est maintenant le roi. Pourquoi a-t-il fait cela? Bien, il était devenu trop âgé, et il en sera ainsi de nous un jour. Où est la relève? Versets 2 et 3. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Il y avait environ 8 000 Lévites lors du dénombrement fait à la sortie d'Égypte. Maintenant, il y en a 38 000. Ils ont augmenté en nombre selon ce que Dieu avait annoncé. David ne s'est pas contenté d'amasser les matériaux pour la construction du temple, mais il a aussi organisé les Lévites afin qu'ils puissent faire le service du temple. Versets 4 et 5. Et David dit, « Qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. » David mit l'accent où? Sur la musique, pensez-y, 4 000 musiciens, quel orchestre! Rappelez-vous que ce sont les Lévites qui font le service dans le tabernacle. Les sacrificateurs provenaient de la famille d'Aaron, et des tâches furent assignées à chaque famille des Lévites. Verset 6. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Les familles de Gershon, Kehat et Merari avaient des tâches précises à accomplir pour l'entretien du tabernacle. Pendant le séjour dans le désert, ils étaient responsables du transport du tabernacle. Ils le démontaient et le remontaient. La famille de Gershon transportait les rideaux, les voiles et les couvertures. La famille de Kehat s'occupait des articles d'ameublement du tabernacle. La famille de Merari transportait les piliers, les planches et les barres pour les tenir. C'était toute une tâche que de démonter le tabernacle le matin et le remonter le soir pour que des sacrifices y soient offerts. Verset 26. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Le Lévite n'a plus besoin de transporter le tabernacle dans le désert. il servira Dieu dans un nouveau ministère. Tous les Lévites le serviront dans ce nouveau ministère. Essayez-vous de servir Dieu dans un ministère qui n'a plus lieu d'être? C'est une leçon que nous avons besoin d'apprendre. Dieu a suscité de nombreuses organisations chrétiennes, et après qu'elles ont accompli leur tâche, il y a des personnes qui veulent les maintenir. Certaines deviennent mortes. Elles ne servent plus à rien. Mes amis, lorsque Dieu a terminé avec une organisation, il a terminé. C'est le temps d'orienter nos énergies vers un autre ministère. Dieu dit aux Lévites, « Bien, nous ne nous promènerons plus dans le désert. Désormais, nous aurons un temple, et votre ministère ne sera plus le même. » Mes amis, marchons au pas de Dieu et faisons une activité vivante et utile à son œuvre. Les Lévites ont maintenant un nouveau ministère. Les barres sont ôtées de l'arche. Elles ne serviront plus à son transport. L'arche doit demeurer en permanence à Jérusalem sur l'aire d'Ornan. David l'a achetée et le temple y sera construit. De nombreuses fonctions attendront les Lévites dans ce nouveau bâtiment. David sépare les tâches entre les Lévites. Cela se fait par tirage au sort. Des équipes se relayeront pour le service. Une équipe travaillera au temple un certain temps. Ensuite, une autre viendra la remplacer. Essayez-vous de servir dans un ministère qui n'a plus lieu d'être? À Toronto, une grande église avait organisé une réunion le dimanche après-midi pour les servantes de ses familles. Cela se produisit entre les deux guerres. De nombreuses familles avaient des servantes et elles ne pouvaient assister à l'église aux heures régulières. Elles demandèrent au conseil qu'une réunion soit organisée pour elles dans l'après-midi, ce qui leur fut accordé. Plus tard, les coutumes évoluèrent et les familles ont cessé d'avoir des servantes. Cependant, la réunion se tenait toujours dans les années 80, même si seulement 3 ou 4 dames très âgées y assistaient. Le ministère n'avait plus sa raison d'être, mais il était devenu une tradition à laquelle certaines personnes s'attachaient. Voilà le danger qui guette chacun d'entre nous. Qui servons-nous? Nous ou le Seigneur? Si nous refusons de terminer un ministère qui n'est plus nécessaire, ou de passer le bâton à la relève, se pourrait-il que ce soit nous que nous servions et non Dieu? Exercions-nous notre ministère pour notre gloire personnelle ou pour notre satisfaction? Était-ce notre façon d'obtenir l'admiration des autres? Lorsque nous servons Dieu, nous désirons l'avancement de son royaume, de son œuvre. Nous faisons ce qui est utile et nécessaire à cet objectif. C'est Dieu qui doit nous guider, et non un motif égoïste. Pour qui travaillez-vous? Pour qui est cette vie? Elle est pour Dieu. C'est Dieu qui nous l'a accordée. Dieu nous a donné la vie, et elle devrait l'honorer, le glorifier. Voilà le but de l'existence, le but de ta vie. Permets que cette vie soit au service de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Chronique chapitre 24 verset 1er à chapitre 28 verset 11.
Merci Régent. Mes amis, on vit dans une société aujourd'hui où on fait rire de soi quand on parle du péché. C'est comme si le péché n'existait plus. Tout est permis de nos jours. Mais j'ai bien aimé ce que Régent a dit au sujet du péché. Il a dit que Dieu n'a pas permis à de nombreux hommes d'atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés à cause du péché dans leur vie. Le péché entrave notre progrès. Et je crois que ceci s'applique à tous les croyants et même aux incroyants. Pour nous, les croyants, le péché attriste l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est alors que nous perdons la direction de Dieu dans nos projets et même dans notre quotidien. Et c'est pour ça que Dieu nous reprend. Il veut qu'on revienne à Lui. Il désire qu'on soit en communion constante avec Lui. Il veut qu'on soit heureux. Il veut nous bénir, nous donner du succès. Il veut qu'on lui rende toute la gloire qui lui est due pour ses succès. Et pour toi, mon ami, toi qui n'as pas encore pris conscience du fait que tu es un pécheur. Et crois-moi, je ne suis pas en train de te juger. La parole de Dieu dit qu'on est tous des pécheurs, sans exception. Mais si tu ne réalises pas que tu es un pécheur, eh bien, tu ne te repentiras pas. Dans sa deuxième épître, au troisième chapitre, verset 9, Pierre nous dit que le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a plusieurs années, j'ai reconnu que j'étais une pécheresse perdue. Je me suis repentie. J'ai changé de direction à l'égard du péché. Croyant sincèrement qu'il était mort sur la croix pour payer la dette de mon péché, j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Et il l'a fait. Il m'a transformé. Je suis née de nouveau. J'ai reçu un cœur nouveau. Il a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur tendre qui laisse pénétrer la parole de Dieu dedans. Mon ami, ne cherche plus pourquoi tes projets ne réussissent pas. Pourquoi ta vie ne va pas comme elle le devrait. Ce n'est pas à cause de ton père. Ce n'est pas à cause de ta mère, de ton conjoint, de ta conjointe, de ton patron, de tes collègues ou même des circonstances. Non, c'est à cause du péché qui met un abîme entre toi et Dieu. Et Dieu a pourvu un moyen pour que tu traverses cet abîme. Et ce moyen, c'est la croix. Jésus est mort sur la croix pour toi, pour payer la dette de tes péchés. Tout est accompli. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes œuvres, tu n'as pas besoin de souffrir pour aller au ciel. Mais demande à Jésus, demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de te donner la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il veut te donner. Un cadeau que tu ne mérites pas. Un cadeau que je ne méritais pas. Un cadeau que personne ne mérite. Personne ne mérite d'aller au ciel parce qu'on est tous des pécheurs. Mais Jésus a payé notre dette en entier. Il nous aime tellement que malgré toute sa souffrance, il est resté cloué sur cette croix jusqu'à ce que tout soit accompli. Il est mort sur la croix. Il a payé en entier notre dette. Tourne-toi vers lui. Reçois le beau cadeau qu'il veut te donner. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment et tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Reçois son salut. Reçois le don gratuit de la vie éternelle. Reçois-le maintenant. Repens-toi et tu vas devenir un enfant de Dieu.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.